trois clavecins solistes sont ici réunis autour du Leonhard Consort de Gustav Leonhard pour interpréter la Sicilienne et le final du triple concerto en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Gustav Leonhard, Alan Curtis et Annette Wittenbosch en étaient les solistes, accompagnés par ce fameux Leonhard Consort d'Amsterdam. Bach ne s'est pas contenté des concerts familiaux pour se produire aux côtés de ses fils, mais il donnait également des concerts à Leipzig et même à Dresde, où on sait qu'il a joué avec son fils Wilhelm Friedemann. Ce faisant, il a servi de modèle à un autre grand compositeur qui le vénérait et qui lui aussi a pris grand plaisir à accompagner son propre fils en concert. Il s'agit de Dmitri Shostakovich. Shostakovich avait deux enfants, une fille et un fils, Maxime. Ce dernier a laissé des souvenirs où il raconte comment son papa avait pris soin d'encourager leur intérêt pour la musique. Alors que ma sœur et moi étions encore enfants, raconte-t-il, notre père, Dmitri Dmitrievich Shostakovich, nous faisait périodiquement cadeau de nouveaux morceaux pour piano qu'il avait composés. Au fur et à mesure que nos compétences se sont développées, ces morceaux devinrent de plus en plus difficiles. Finalement, notre persévérance fut récompensée et à notre immense joie, il écrivit un concerto. J'étais particulièrement fière du fait que mon père me l'avait dédié. C'est donc pour son fils Maxime que Shostakovich a composé en 1957 son deuxième concerto pour piano et orchestre. C'est le jeune homme qui en a assuré la création dans la grande salle du conservatoire de Moscou où il était étudiant le 10 mai 1957, jour de son 19e anniversaire. Shostakovich a composé ce deuxième concerto plus de 30 ans après le premier et c'est l'une de ses partitions les plus populaires. Relisons encore ensemble les souvenirs de Maxime. Écrite pour de jeunes exécutants, sa musique est claire, exigeante et toute imprégnée de l'audace de la jeunesse. Toutefois, Shostakovich n'accordait à cette partition que peu d'importance. Dans une lettre adressée à son ami compositeur Edison Denisov, il affirme que ce concerto ne présente définitivement aucun mérite artistique qui puisse la racheter. Mais sans doute voulait-il devancer toute critique de ce qui était en apparence une de ses partitions les moins aventureuses. Peut-être y a-t-il même derrière cette remarque un clin d'œil ironique que Denisov n'aurait pas su apprécier. Ce concerto s'inscrit dans une catégorie de musique typiquement soviétique, les concertos de jeunes, destinés spécifiquement aux jeunes musiciens dans un pays qui subventionnait massivement son système pédagogique musical. Il répond ainsi aux adjurations répétées faites auprès des compositeurs soviétiques d'écrire une musique animée, confiante et positive. La partition est truffée de plaisanteries, comme autant de clins d'œil d'un père à son fils. Le final, par exemple, utilise des thèmes empruntés aux études pour les cinq doigts de Anon, qui était en Russie le pain quotidien de l'enseignement du piano. On y entend également des chansons de marins. Le mouvement lent que je vous propose d'écouter ici est le cadeau intime et touchant d'un père à son fils. C'est un andante étonnamment pur avec un brin de tristesse, nous dit encore Maxime. Il se développe comme une sarabande dont la mélodie suggère une parodie du mouvement lent du deuxième concerto de Rachmaninov. L'apparente simplicité enfantine s'accompagne d'un sentiment de mélancolie, de distance ou de souvenir. C'est une musique sur la simplicité plutôt qu'une musique simple. Le deuxième mouvement Andante du deuxième concerto pour piano et orchestre de Dmitri Shostakovich. Simon Trepsky en était le soliste, accompagné par l'orchestre philharmonique Janáček d'Ostrava, direction Christian Masselahou. Shostakovich a composé donc ce deuxième concerto à l'intention de son fils Maxime, qui raconte encore ceci. Quand nous apprenions cette partition nouvelle, mon père et moi la répétions souvent sur deux pianos et nous argumentions. Je soutenais avec ardeur mes idées juvéniles. Par la suite, mon père et moi l'avons souvent exécuté ensemble. Maxime l'a ensuite également interprété avec son propre fils, Dmitri Maximovitch Shostakovich. Chez les Shostakovich, on fait donc de la musique de père en fils et en petit-fils. Ces joies de la paternité, Maurice Ravel ne les a pas connues, lui qui est resté célibataire toute sa vie. En revanche, il y avait des enfants dans son entourage, notamment ceux de ses amis Tchipa et Ida Godebski, un couple d'origine polonaise installé à Paris, qui malgré une fortune modeste, organisait des soirées artistiques où était convié tout le gratin parisien. De nombreux musiciens et peintres se retrouvaient ainsi chez eux à la Grangette, près de Valvin. Ravel considérait les Godebski comme sa famille d'adoption. Il appelait leur fillette Mimi, sa petite fiancée. La pitchounette adorait tonton Ravel, parce qu'il lui racontait des histoires merveilleuses, dont certaines fournissaient des programmes pour sa musique. Comme Mimi Godebska, 7 ans, et son frère 9 ans jouaient très bien du piano, Ravel a composé pour eux ces fameuses histoires de Ma mère loi. Il leur a même demandé d'en assurer la création. Aiguillonnés par leur tante, Missia Godebski, excellente musicienne, les deux enfants ont travaillé assidûment pendant des semaines avant de déclarer forfait. Ce sont néanmoins deux jeunes gens qui en donneront la première audition en 1910 à la salle Gaveau. Ravel a puisé son inspiration dans divers contes de fées du XVIIe siècle français, chez Charles Perrault, mais aussi chez la comtesse d'Aunoy et chez Marie le Prince de Beaumont. Il en a tiré un de ses recueils merveilleux que l'on joue plus souvent dans sa version pour orchestre que dans sa version pour piano à quatre mains. En voici les titres. Pavane de la Belle au bois dormant, Le Petit Pousset, L'Aidronette, impératrice des pagodes, Les Entretiens de la Belle et de la Bête et Le Jardin féerique.
Thank you.
On sort sur la pointe des pieds de ce jardin féerique de Maurice Ravel, dernier tableau des récits de Mamerlois, 5 pièces enfantines composées pour les enfants de ses chers amis, les Godepski. Armin Jordan et l'orchestre de la Suisse romande se faisaient ici conteurs. La version originale est écrite pour piano à quatre mains. Voici ce que Ravel disait à son propos. Le dessein d'évoquer dans ces pièces la poésie de l'enfance m'a naturellement conduit à simplifier ma manière et à dépouiller mon écriture. C'est dans cet esprit de simplicité et d'ingénuité enfantine qu'il faut les écouter. C'est sur cette belle parole que se referme cette oreille d'abord, proposition de Catherine Buzer, mise en onde aujourd'hui par Marie-Claude Cudry. Merci de votre fidélité, à demain, portez-vous bien. Il est 17h30 sur Espace 2.
Bonjour, c'est Sérène Regard. Pour la soirée de la Saint-Sylvestre, mardi 31 décembre, je vous invite à l'écoute d'un florilège lyrique. Dès 19h30, à l'Opéra vous emmène vers la nouvelle année en musique et sourire aux lèvres sur les ondes de la radio-télévision suisse Espace 2.
Bazar, Sébastien Pache.
Comme tous les petits enfants la semaine passée ou aujourd'hui, avec leur petit sac coloré, leur gamelle en plastique sans BPA contenant une récréation à faible impact carbone, donnant la main à papa ou se faisant déposer par maman, Bazar fait sa rentrée ce soir. Et on espère qu'on aura plein de nouveaux camarades de classe, si jamais c'est vous les camarades, et qu'on pourra partager notre récré à faible impact carbone ensemble. Vous allez me dire que ça dépend ce que c'est. Un bout de pain au choc, d'accord, mais alors une carotte, ça invite déjà moins au partage. Pas parce que c'est moins bon, bien sûr, mais parce que c'est quand même un peu moins gourmand. Alors la récréation, c'est en principe sur le coup de 10 heures, alors que Bazar, comme à son habitude, c'est entre 17h30 et 19h30, du lundi au vendredi sur RTS Espace 2, ainsi que le samedi en best-of. Et pour faire un best-of, eh bien, il faut du best. Donc on va se le créer ensemble, ce meilleur. Si c'est pas beau ça, faire le meilleur ensemble. Est-ce que ça serait pas une bonne phrase de politique, ça, hein ? Je vous le demande. Cette émission musicale taquine se réjouit de partager de nouvelles distractions culturelles et musicales avec vous. Et pour en évoquer une seule, rien qu'une seule, soulevons le couvercle de notre nouvelle séquence opéra que vous pourrez déguster gourmettement tous les jours à 18h. En effet, si ces larges opus que sont les opéras sont pour certains gravés dans le marbre de la postérité, il est des extraits. Des intrigues, des moments, des sujets, bref, des éléments de ceux-ci qui méritent un éclairage plus direct, plus public et plus quotidien. Nous nous réjouissons donc de partager avec vous les charmes des rires et des larmes qu'offrent conjointement ces partitions et ces livrets. Ça aussi, une belle phrase politique d'ailleurs, ce sera la dernière, promis, Bazar, bonsoir. L'allemande de la suite d'un goût étranger qu'on trouve dans le quatrième livre des pièces de viol de Marin Marais. C'était Jordi Savall à la viole, accompagné de Rolf Lislevand au théorbe. Alors quand on évoque Marin Marais, l'époque de Louis XIV, on a plein de termes musicaux et surtout des noms de charges musicales qui sont totalement désuets mais très charmants, comme par exemple « musiqueur du roi à la cour », C-Q-U-E-U-R. Marin Marais a également été ordinaire de la chambre du roi pour la viole et plus tard violiste dans l'orchestre de l'opéra. Et puis il y a aussi des formations plus récentes qui s'amusent à reprendre des noms existants comme « les violons du roi » avec un Y. S'il vous plaît, on les entend dans la musique de Joseph Haydn. Le presto du concerto pour piano et orchestre en fa majeur de Joseph Haydn, Marc-André Hamelin au piano accompagné par les violons du roi, dirigé par Bernard Labadie. Bonsoir à vous qui nous rejoignez dans le bazar d'Espace d'Urne et ravi de vous avoir un moment en notre compagnie pour partager un peu de musique. On est ensemble jusqu'à 19h30, en bonne odeur également, parce que c'est très important qu'un bazar sente bon. N'allez pas vous figurer que ça sente le bain-joint, vous savez, le papier d'Arménie, etc. Non, pas du tout. Ici, ça sent... ça sent la musique française. Et comme a dit Debussy à propos d'un compositeur assez obscur, sa musique sent bon. On ne s'étonnera pas d'apprendre que ce compositeur s'appelle Déoda. Une autre manière de dire Dieudonné, et que le petit nom de Déoda, eh bien, c'est tout simplement Déo.
Thank you.
Si vous ressentez une certaine ivresse après l'écoute de cette musique, c'est normal. Voilà, il faut pas vous inquiéter parce qu'elle porte le nom d'une boisson alcoolisée. Alors ça, c'est curieux. D'abord, le compositeur Déodat de Sévrac, compositeur français qui est né en Haute-Garonne en 1872, disciple de Vincent d'Indy à la Scola Cantorum de Paris. Cette valse brillante pour piano qu'on entendait ici dans son arrangement pour orchestre interprété par l'orchestre de la Suisse romande sous la direction de Roberto Benzi porte donc le nom de Peppermint Jet. Alors Peppermint, c'est une faute de prononciation pour Peppermint qui veut dire la menthe poivrée. Et puis le Jet, alors là tout à coup les amateurs d'apéritifs ouvrent des grands yeux parce que le Jet c'est bien le Jet 27 ou le Jet 31 suivant ce que vous buvez. Une boisson antédiluvienne. Figurez-vous que la date de création du Jet, c'est 1796 par François Ponce à Revel. Alors ça, c'est quand même de l'histoire. La prochaine fois que vous trinquerez autour d'un verre de Jet 27, si tant est qu'on boive encore ça, eh bien vous penserez à son histoire absolument grandiloquente. Thank you. On entendait successivement deux numéros des variations sur un thème original pour orchestre d'Edward Elgar, les variations Enigma, l'orchestre philharmonique de Bergen sous la direction d'Andrew Litton. C'était BGN pour Basil G. Nevinson, suivi de la romance qui se terminait en tapinois. Bazar sur RTS Espace 2 jusqu'à 19h30, dans quelques minutes à peine. Oui, juste de l'autre côté de cette musique russe, nous allons nous attaquer à un peu d'opéra avec la première séquence dédiée au puritain de Vincenzo Bellini. Thank you. C'est une musique tardive du compositeur russe Sergueï Ivanovitch Taneïev que ce quintet pour piano, deux violons, alto et violoncelle en sol mineur dont nous entendions le presto, puisqu'il est décédé en 1915 et que cette œuvre est parue en 1912. Nous entendions le quatuor Martinou avec la collaboration de la pianiste Olga Vinocourt. Chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir à présent que nous nous lançons dans notre séquence opéra, lyrique, en vrac et autres récits hâtifs sans récitatif. Avec une œuvre de Vincenzo Bellini qui, à défaut de nous purifier, va nous entraîner et nous divertir pendant un certain temps, son opéra Les Puritains. Alors, je ne vous cache pas que je suis très enthousiaste à l'idée de mettre les mains dans cette intrigue déchirante où amour et devoir cohabitent si mal et que je ne peux que difficilement endiguer cette envie de répondre à la veine mélodique de Bellini dans cette émission. Et pourtant, il nous faut avant toute chose dire quelques mots de la grande histoire, celle qui s'écrit avec une grande tâche. L'Angleterre de 1649 saigne. Oui, elle saigne de la tête, pour dire les choses anatomiquement. En effet, le 30 janvier de cette année-là, on raccourcit le roi Charles Ier. Même les quatre mousquetaires n'ont rien pu y faire, et comme on en parle beaucoup, surtout de Dumas ces temps, on se rappelle ce déchirant moment dans le roman 20 ans après, où Charles Ier, sur l'échafaud, lâche un « remember » à Athos, qui est planqué sous les planches de l'échafaud, donc « Souviens-toi ». Eh bien, on s'en souvient.